Bonjour à toutes et à tous pour la dernière émission de cette saison. L'émission L'eau à la bouche vous propose de faire un détour assez prolongé par la fête de la biodiversité. C'était un événement proposé par la ville de Montpellier les 21 et 22 mai 2010 sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. Un événement intitulé « Montpellier cultive la biodiversité ». Alors pour en parler, eh bien je suis avec Philippe Cross qui est directeur de DIPAN pour la ville de Montpellier. Pourquoi est-ce que la ville de Montpellier organise pour la deuxième fois une fête de la biodiversité ?
Tout simplement parce que la fête de la biodiversité urbaine en fait est un des axes majeurs de la politique de la ville. Et donc c'est un des événements qui ponctue d'abord l'année 2010 de l'année internationale de la biodiversité. Et également, ça fait partie des actions de sensibilisation que la ville souhaite mettre en place pour sensibiliser les habitants de Montpellier à ce problème de biodiversité.
Au sein de votre service, donc la direction des paysages et de l'espace naturel, quand vous parlez de biodiversité, de manière concrète, ça se traduit par quel type d'action ?
Alors, elles sont nombreuses, les actions qu'on entame. En fait, il y a deux aspects. Il y a la biodiversité qu'on appelle ordinaire, qu'on trouve en ville au pied de chez soi, hein. Par exemple, on a recensé au pied des arbres où on laisse pousser l'herbe plus de 140 espèces végétales différentes, alors que si vous allez dans la garrigue, il y en a au mieux 150 que vous pouvez trouver. Et donc pour sensibiliser les gens, en fait, à travers la biodiversité urbaine qui peut sembler banale, à la biodiversité extraordinaire qui se trouve dans des pays tropicaux ou dans des spots en fait très très intéressants. Et donc c'est par ce biais-là qu'on souhaite passer le message de l'érosion de la biodiversité.
Finalement, votre discours, c'est de dire que l'exceptionnel, les choses à découvrir, c'est pas forcément à l'autre bout de la Terre, dans des paysages tropicaux ou autres, ou exotiques, mais finalement, c'est peut-être juste en bas de chez soi, et peut-être même dans la ville de Montpellier.
Déjà connaître ce qu'on a au pied de chez soi, dans la ville, et puis prendre conscience, en fait, que notre mode de vie et puis nos comportements quotidiens peuvent impacter la biodiversité qui n'est pas forcément dans la ville, mais qui peut être au-delà, dans les environs de Montpellier. Par exemple, je sais pas, la pollution automobile, elle a un impact sur la biodiversité qui est autour de l'agglomération. Et puis, je sais pas, quand on va acheter, par exemple, une table en teck à Castorama ou un autre magasin, on impacte la biodiversité qui est beaucoup plus lointaine par la disparition d'espèces en fait qui sont exploitées pour ce genre d'objets, quoi.
Si vous parlez de biodiversité, je suppose que c'est parce que vous avez mené des travaux de recherche ou du moins de recensement de cette biodiversité. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment de bien connaître la nature qui s'est immiscée dans la ville de Montpellier ?
Alors on a en effet des programmes scientifiques qu'on mène notamment avec le CNRS sur des choses un peu particulières, par exemple comme la flore qui se trouve au pied des arbres et qu'on peut découvrir. On a un programme scientifique autour des mésanges aussi pour étudier un petit peu leur comportement dans la ville. Et donc on commence à avoir une bonne connaissance en fait de la richesse naturelle de Montpellier, qui se situe pas forcément dans des espaces naturels, mais aussi dans des recoins beaucoup plus urbains. Et donc notre objectif, c'est de préserver, d'essayer de restaurer dans certains endroits toute cette nature en fait vivante. Et je pense qu'il y a une très très forte attente des habitants justement de ce contact avec la nature en ville.
Alors la thématique de la biodiversité est arrivée dans les services municipaux qui s'occupent soit des paysages, de l'environnement urbain, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette idée vous a séduit et il vous semblerait difficile de pouvoir travailler sans biodiversité, sans parler de cette thématique-là ?
C'est une des composantes en fait, de la politique qu'on mène depuis pratiquement le sommet de Rio, le sommet de la Terre en 1992. Et donc on a pris conscience que tous les actes qu'on faisait en matière de, par exemple, ne serait-ce que en matière de gestion des espaces verts, n'étaient pas forcément compatibles avec un maintien de la biodiversité. Alors c'est pour cette raison qu'on a par exemple arrêté les désherbages chimiques et tous les produits de traitement qui étaient utilisés auparavant de manière tout à fait banale dans l'entretien des espaces verts. Donc je peux dire qu'à ce jour, en fait, on a complètement banni tous les produits chimiques dans notre façon de gérer les choses.
Est-ce qu'aujourd'hui, il vous reste beaucoup de travail à faire pour être, on va dire, entre guillemets, plus performant, même si bon, le mot est peut-être mal choisi, sur cette thématique de la biodiversité ?
Alors on va développer dans les années qui viennent, puisque il y a un plan pluriannuel qui a été adopté par le conseil municipal, qui se décline autour de trois axes. Le premier, c'est observer et connaître. Donc on a par exemple la possibilité maintenant pour chaque habitant de Montpellier d'aller sur le site de la ville et de se mettre en lien avec ce qu'on appelle les observatoires de la nature et les sciences citoyennes. Donc chaque Montpelliérain peut maintenant faire des relevés sur les papillons, les insectes pollinisateurs, en se mettant en lien avec ces réseaux d'observation. Le deuxième axe, c'est restaurer et conserver. Donc là, on a par exemple tout un travail actuellement sur les friches urbaines, où en fait on a découvert des trésors de biodiversité dans des espaces qui, pour le moment, ont un peu une image négative, mais qu'on compte remettre en valeur aux yeux des habitants pour leur montrer qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ces lieux. Et puis le troisième axe, c'est sensibiliser et éduquer. Et donc là, c'est toutes ces actions de manifestation grand public qu'on souhaite développer, notamment par la fête de la biodiversité qu'on va reconduire l'année prochaine, et également l'ouverture des congrès scientifiques autour de la biodiversité qui se déroule à Montpellier et pour lesquels on s'efforce de développer en fait des conférences grand public à ces occasions, en faisant intervenir des chercheurs, des scientifiques, des gens comme ça.
C'est ce que j'allais dire, parce que cette fête, deuxième fête de la biodiversité, se décline sous la forme de conférences, d'ateliers, d'animations faites par le réseau associatif et les structures qui travaillent dans cette thématique de la biodiversité. Est-ce que pour vous, ville de Montpellier, c'était une bonne manière, ou voire la meilleure des manières, de rendre compte de cette biodiversité, c'est-à-dire de donner la parole à ceux qui la font vivre tous les jours, peut-être à vos côtés, mais aussi en parallèle?
Tout à fait. L'objectif de la fête, c'est ça, c'est de mettre en contact en fait les habitants de Montpellier avec tous les acteurs locaux de la biodiversité. Et c'est vrai qu'à Montpellier, il y a un tissu associatif très très important qui œuvre dans ce domaine. Et puis, on a la chance d'avoir, je pense, le plus grand centre de recherche, la plus grande concentration de chercheurs sur le plan au moins national dans ce domaine également. Donc il faut que les habitants en prennent conscience et puissent rencontrer et discuter avec tous ces acteurs.
Ce que je vous propose, c'est que moi je vais aller faire un petit tour sur les stands, histoire que les auditeurs puissent avoir un aperçu de cette deuxième fête de la biodiversité. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Agropolis Muséum tenait son stand à la fête de la biodiversité à Montpellier. Je suis avec Mathieu Beauchard, qui est étudiant. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez amené sur ce stand et ce que le public pouvait y découvrir ?
Alors aujourd'hui, donc, nous avons voulu présenter au public un petit peu tout ce qui est les céréales à travers le monde. Donc voir d'où proviennent certaines céréales, comment elles vont être transformées, qu'est-ce qu'on va faire avec ces céréales une fois transformées. Les enfants donc, font un petit jeu dans lequel ils plongent la main dans des bacs pour essayer de deviner quelles sont ces céréales, mettre un nom dessus. Et donc, comme j'ai pu le dire, leur utilité. Et après, donc, il y a une partie plutôt manipulation où ils vont apprendre à utiliser un mortier et un pilon et une pierre aussi pour écraser le grain. Donc ça leur permet de voir lequel est le plus efficace, comment ça se passe et au final, un petit peu comment ça peut se passer dans certains pays du monde.
Alors, quelles étaient les céréales présentes ?
Donc, les céréales présentes, donc, nous avons du maïs, du riz et du blé. Donc ça permet déjà aux enfants d'avoir une base sur les céréales les plus utilisées à travers le monde. Et après, donc aussi, nous leur présentons donc des mélanges concassés, par exemple, mais nous leur montrons aussi des produits transformés comme des pâtes, de la semoule, en leur montrant bien que c'est fait à partir de farine de blé qu'on va réaliser ces choses-là qu'ils vont manger tous les jours.
Si on devait dire quelques mots sur le riz, par exemple, qu'est-ce que...
Le riz, ce qu'il faut savoir, donc, c'est une des céréales les plus consommées donc, dans tout ce qui est les pays d'Asie. Donc quand on en voit avec les enfants, on appuie bien sur le fait que c'est à la base de nombreuses cultures, dans l'alimentation de nombreuses cultures comme la Chine ou le Japon. Et donc avec les enfants, on part sur les transformations pour faire des galettes de riz par exemple, ou de la farine qui servira dans d'autres mets.
Pour le blé ?
Pour le blé, donc nous appuyons bien sur le fait que c'est à la base de notre propre alimentation, donc dans l'utilisation des farines pour faire du pain par exemple, pour faire les pâtes qu'ils aiment manger au midi et tous les jours, mais aussi dans d'autres compositions comme la semoule par exemple qui est faite à base de blé. Et donc on appuie bien sur le fait que certains pays sans ces céréales-là auraient du mal à survivre. C'est vraiment à la base de la plupart des alimentations européennes de nos jours.
Pour ce qui est des utilisations du maïs, qui était la troisième grande famille de céréales présente ici.
Alors le maïs, nous partons carrément à l'autre bout du monde là aussi, donc nous partons au Mexique et nous leur parlons de l'utilisation du maïs, donc là aussi une base alimentaire dans certains pays et fabrication de la tortilla par exemple, qui est le plat typique mexicain, sans lequel on ne fait pas de repas au Mexique. C'est vraiment, on va s'en servir comme d'une fourchette, c'est vraiment, ça a une place totalement importante dans leur alimentation et dans leur vie de tous les jours.
Cette journée est dédiée à la biodiversité. Je suppose que vous faites aussi état du nombre de variétés ou d'espèces végétales qui...
Donc voilà, donc nous parlons, comme on peut le voir sur le stand, en nous montrant différents types de riz, donc du riz blanc, du riz qui va être plus ou moins complet. Donc les enfants vont pouvoir observer des différences entre les espèces. Et après, bien entendu, au sein du musée, nous appuyons bien sur la biodiversité avec les différentes espèces, comme des ateliers sur le cacao, sur la forêt tropicale. Donc on essaye de faire une grande diversité et prendre une place intégrante de la biodiversité dans notre musée.
Un musée consacré à l'agriculture, l'agroalimentaire, est-ce que c'est une manière de défendre la biodiversité ?
Dans un certain sens, oui, vu que si on mangeait tous la même chose, s'il n'y avait qu'une certaines espèces qui étaient cultivées et non d'autres, il y aurait une décroissance de la biodiversité, donc moins de diversité au niveau de l'alimentation, et ça serait comme un appauvrissement de ce côté-là. Donc oui, c'est une certaine façon d'appuyer et d'aller dans le sens de la biodiversité que de parler de l'alimentation.
Merci à toi, Mathieu.
Merci.
On s'arrête maintenant sur le stand des écologistes de Lezière, de l'association Les Écologistes de Lezière, et je suis avec Michèle Cornillon qui aujourd'hui prend le rôle d'animatrice pour présenter aux enfants tout ce qu'il y a sur cette table. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette table ?
Déjà, on va trouver pas mal de graines. Et on va trouver pas mal de fruits qui vont nous montrer différents modes de dissémination des graines. Parce que chez les plantes, on aime bien grandir loin de ses parents. Et c'est pas mal aussi chez les gens. Donc on va avoir plein de stratégies différentes pour s'éloigner de ses parents. Des fois, on va avoir plein de poils, comme certains garçons. Mais c'est le vent qui va nous faire partir, pas les filles. D'autres fois, on va avoir... un tire-bouchon. Le vent va nous faire partir parce qu'on a des poils. Puis quand on va arriver dans un endroit où la terre elle est trop sèche, eh bien on va attendre la première pluie. Et la pluie va nous faire nous détordre. Et on va faire comme avec un tire-bouchon qu'on enfonce dans le bouchon. Sauf qu'au bout, c'est une graine et qu'on va la laisser au fond de la bouteille et pas boire le vin. On est une petite plante.
Et là, juste pour ce cas, ici, c'est une graine de...
Ça, c'est une graine de follavoine.
D'accord. Dans quelle elle joue le rôle de tire-bouchon ?
Alors, elle a une partie qui est vrillée et qui se détord lorsque le temps est humide. On retrouve des phénomènes tout à fait pareils chez les cyclamens. Quand on achète sur le marché des plantes cyclamens, les plants à toutes petites fleurs, si on laisse les fruits se développer, on s'aperçoit que la tige qui supporte le fruit s'allonge, se transforme vraiment en tire-bouchon et petit à petit enfonce le fruit dans le sol.
Autre exemple de graine qui a un autre mode de transport.
Alors là, on a le génie mécanique de la nature avec les graines épineuses. On va faire le tour de la table. Et si vous regardez ce magnifique paysage avec un pommier en feutrine, avec un caouet de marin, avec un joli petit pull de petite fille tricoté en laine, si je lance mon petit fruit, hop, il reste accroché au pull. Alors évidemment, dans la nature, il ne traîne pas beaucoup de pulls au vert. Par contre, il y a des renards, il y a des lapins, il y a des loups parfois, mais bon, pas trop souvent et pas trop chez nous. Et ces fruits s'accrochent au poil de ces animaux. Et ces animaux, ils sont pourvus de pattes. Donc ils peuvent emporter le fruit plus loin. C'est aussi une autre façon de s'éloigner de ses parents.
Je dirais etc, etc, etc.
Et il y a des milliers d'exemples comme ça, des milliers de stratégies, et on ne les connaît certainement pas toutes.
L'association Les Écologistes de Lezière est ici sur cette deuxième fête de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'il vous semblait important d'être présent aujourd'hui, notamment peut-être pour les scolaires, mais peut-être également aussi demain pour le tout public ?
Parce que ça, c'est vraiment le cœur de nos missions aussi, de montrer aux gens les richesses qu'on peut avoir juste à côté de chez soi. Et que quand on parle de biodiversité, c'est souvent une affaire beaucoup plus proche de soi qu'on le pense. On entend plus facilement parler de biodiversité équatoriale, etc. Mais partout, il y en a. Et dans nos territoires, par exemple, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui n'est pas facile à mettre en valeur, la biodiversité du sol. C'est-à-dire la grande richesse qu'il y a en nombre d'espèces, que ce soit des champignons, des bactéries, des tout petits insectes qui sont dans le sol. Alors nous, ça, on ne sait pas trop faire, mais par contre, on sait à peu près faire ce qui concerne les plantes et les animaux. Et ça, c'est important.
Et utiliser les graines qui sont à la base des plantes à venir, est-ce que c'est un bon outil pour parler biodiversité ?
C'est un outil qui donne la dimension du temps et de l'espace. C'est-à-dire que dans les écosystèmes, beaucoup de choses sont en lien et ce n'est pas seulement parce qu'elles sont juste l'une à côté de l'autre que les choses interagissent. On peut avoir des interactions à distance. Et ça, ça fait partie de la biodiversité. C'est aussi ce qui fait partie, par exemple, dans l'évolution des milieux, pour passer d'une prairie à une friche, puis après à une garrigue, puis après à une forêt. Il faut bien qu'à un moment donné, toutes les graines qui ont donné d'abord ces arbustes et puis après ces arbres soient arrivées là. Et donc, il faut qu'elles aient eu, pas elles, une stratégie, mais il faut qu'il y ait eu un moyen de transport qui les amène de l'endroit où elles sont nées à l'endroit où elles vont germer. Et ça, c'est aussi la complexité et les interactions entre les différents milieux dans un paysage général, quoi.
Merci, Michel, pour cette belle histoire.
Ça ressemble un peu à ça. Ça mange surtout des poissons et des grenouilles.
Prochaine pause, le stand du Jardin des Plantes de l'Université de Montpellier 1. Je suis avec Jennifer Carré, qui est étudiante. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez présenté ici ? Alors, je vois essentiellement des plantes. Est-ce que ce sont des plantes qui viennent du Jardin des Plantes de Montpellier ?
Alors oui, ce sont des plantes qui viennent des serres du Jardin des Plantes de Montpellier, qui sont gardées en collection, qui est une collection des plantes dédiées à Montpellier. Et donc là, nous les présentons dans le cadre de cette journée de la biodiversité pour montrer à quel point la botanique en fait a été très importante au niveau de Montpellier, et notamment parce que le Jardin des Plantes de Montpellier a été le premier jardin botanique de France et donc qui a amené un rayonnement important. Donc les botanistes venaient herboriser aux alentours de Montpellier et ont donc nommé énormément de plantes Montpellier.
Oui, parce que finalement, c'est ça qui rassemble l'ensemble des plantes qui sont présentées ici sur votre stand, c'est qu'elles sont toutes plantes de Montpellier.
Exactement, c'est ça, oui.
Est-ce que l'on peut en présenter quelques-unes ?
Alors, on peut présenter par exemple la filante de Montpellier. On voit ici un ensemble de tiges dressées vertes, avec au bout une petite fleur violette, très caractéristique. Et donc, cette plante, on la trouve à l'état naturel dans la garrigue. Et affilante, en fait, ça veut dire sans feuilles. C'est une plante très particulière parce qu'elle ne présente pas de feuilles. Juste des tiges sur lesquelles on va retrouver des inflorescences au bout. Voilà.
Une autre plante ?
Voilà, la saponaire de Montpellier. Donc on voit une plante un peu tombante comme ça, avec de jolies fleurs roses. Alors celle-ci, elle est un peu particulière, parce que si on la frotte entre nos mains avec un peu d'eau, elle va donner de la mousse. C'est pour ça qu'elle s'appelle la saponaire, en fait. Elle contient de la saponine, qui est une des substances du savon.
Allez, une troisième, on va pas être...
Chouchou, donc l'érable de Montpellier, on voit avec ses trois petites ses feuilles trilobées qui sont très caractéristiques, il est très joli. Donc l'érable de Montpellier, on le retrouve pareil dans la garrigue et il est originaire aussi du secteur. Bon, on peut le retrouver un petit peu plus loin que Languedoc-Roussillon, mais c'est quand même un arbre assez typique de la région.
Alors toi, en tant qu'étudiante, pourquoi est-ce que tu t'es rapprochée de cette structure du Jardin des Plantes ?
Alors, c'est dans le cadre de mes études, en fait. Donc, je fais un Master 2 de communication scientifique à la Fac de Sciences de Montpellier. Et j'avais envie de me spécialiser dans la botanique. Donc, j'ai fait mon stage de Master 2 au Jardin des Plantes, ce qui me permet de me spécialiser, en fait.
Le Jardin des Plantes de Montpellier, est-ce que c'est un lieu idéal pour se rendre compte de la diversité des plantes sur cette planète ?
On va dire que c'est une structure adaptée à ce genre de choses. Idéal, je ne sais pas s'il est idéal, enfin à mes yeux il l'est, mais bon, je ne peux pas forcément avoir un avis très pertinent. Mais oui, on peut s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que déjà, toutes les plantes disposent de fiches d'identification, donc on peut se rendre compte en regardant déjà la diversité des formes et en regardant les noms des plantes, qu'il y a énormément de plantes, il y a quand même une collection de 2000 espèces au Jardin des Plantes, donc c'est quand même assez diversifié. Oui.
Une collection qui ne présente pas uniquement les plantes de la Garrigue ou celles de Montpellier?
Absolument pas, non. Il y a des plantes, des arbres exotiques. Il y a vraiment des plantes du monde entier, des collections bien particulières qui sont en général rangées ensemble. Mais oui, ça représente une diversité plutôt mondiale. Hein. Il y a de tout en fait au Jardin des Plantes.
Si l'on souhaite se rendre au Jardin des Plantes de Montpellier, est-ce qu'il y a des horaires ou bien est-ce que c'est un jardin qui est tout le temps ouvert?
Il y a des horaires, effectivement. Il est ouvert de midi à 18h tous les jours. Et à partir du mois de juin, fin juin, en fait, il sera ouvert jusqu'à 20h. Donc il est ouvert que l'après-midi et le soir.
Merci à toi, Jennifer, et bon après-midi.
Merci à vous, au revoir.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, con él mi destino, para burlar la ley, perdido el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, va una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya del mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, malonero,
clandestino,
peruano,
clandestino,
boliviano,
clandestino,
marihuana,
ilegal,
yeah, yeah.
Allez, on continue, petite pause de l'émission L'eau à la bouche sur le stand de l'association Selm 34. Je suis avec Christiane Maury. Que signifie ce sigle Selm 34?
C'est Selm, c'est dans l'Hérault et c'est sur le Larzac méridional. Le Selm, c'est le centre d'initiation à l'environnement du Larzac méridional. Il y a une vingtaine d'années qu'on a créé cette association pour arriver à un CPIE qui est un centre permanent pour l'initiative à l'environnement. Actuellement, donc depuis une dizaine d'années, l'association continue bien sûr, mais elle a donné lieu à une labellisation, une autre association qui est plus professionnelle, qui est un CPIE et une association d'Écosse méridionaux. Donc sur cette table, là, vous voyez le CIELM qui est là, qui est présent physiquement, mais également le CPIE et le CIELM, parce que nous sommes en partenariat, qui est là à travers les livres qui sont édités donc sur toute la faune, la flore, l'environnement du Larzac méridional.
Alors une table avec des prospectus, plusieurs petites plaquettes expliquant vos activités, voilà. Également des panneaux, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a sur ces panneaux?
Alors ce panneau c'est un extrait de toute une exposition que l'on avait fait l'an dernier sur les insectes. Donc les insectes du Larzac méridional, c'était pour montrer à la fois la riche diversité des insectes sur le Larzac et puis ailleurs, et également les dangers auxquels ils sont soumis et auxquels, bien sûr, nous sommes exposés à travers les pertes en abeilles, etc. Donc cette exposition avait été faite l'an dernier, et l'an dernier, nous avions fait, deux ans de suite, une grande animation sur un week-end sur les insectes. Nous sommes prêts à la réitérer, certainement l'année prochaine. Donc c'est un début de l'association à travers de grands événements de ce style-là, d'initier, de montrer et de faire découvrir notre pays, notre coin, à travers toute sa richesse écologique.
Pourquoi est-ce que vous a semblé intéressant de présenter les insectes du Larzac dans le cadre de cette journée de la biodiversité?
Parce que c'est ceux qui représentent le plus la biodiversité et peut-être les dangers que courent les problèmes actuels de l'environnement. La disparition des abeilles, la disparition de certains insectes aussi, c'est un grand problème. Donc c'est effectivement cette exposition-là qu'on a voulu porter. Sinon, on avait des expositions sur le patrimoine bâti ou sur l'élevage. C'est moins en danger. L'insecte qui disparaît, c'est important pour nous.
Donc la disparition des insectes, c'était ce qu'il fallait mettre cette année en avant. Est-ce que sur le territoire de l'Arzac, c'est des observations que vous avez été amené à faire également ?
Alors, un petit peu, c'est oui et non. Le Larzac est quand même, par rapport à certaines régions agricoles, beaucoup plus exposé aux engrais chimiques, etc. Le Larzac est une région privilégiée. Il n'a pas tous ces problèmes-là. Cependant, on les voit quand même arriver aussi. Donc, on a envie de... Si vous voulez, comme on a cette richesse faunistique, même floristique, sur le Larzac, on a envie de la faire découvrir pour la faire aimer. Et quand on fait aimer quelque chose, les gens ont envie de perpétuer la chose, donc de continuer à lutter, à aider, à sauver cet environnement qui s'appauvrit.
Merci à vous, Christiane, et bonne continuation dans le travail que vous faites au sein de l'association SELM 34.
Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Allez, c'est décidé, je m'arrête sur le stand le plus chaud de cette fête de la biodiversité. Je suis avec Philippe Bambuste et Martha Arango de l'association Layanan. Qu'est-ce que vous présentez sur ce stand ? Je vois des insectes, des plantes, plein de choses. Quels sont ce qui était présenté ici dans le cadre de cette fête de la biodiversité et puis aussi, peut-être aussi l'activité de cette association Layanan ?
Ici, on présente en fait deux choses. C'est-à-dire qu'on a participé à la création des jardins familiaux, des jardins partagés du projet Main Vert de Montpellier. On anime des jardins-écoles le samedi pour les jardiniers ouverts à tout public. Et donc, on est ici dans cette disposition. Et on présente donc, par rapport à nos actions agroécologiques basées sur le jardin naturel et sur tout le côté aménagement artistique et protection du jardin, ici, aujourd'hui, nous présentons des insectes, notamment du sol, donc le compost, tous les habitants du compost, à quoi ils servent, etc., etc. Et Martha, elle présente tous les insectes pollinisateurs qui vont permettre d'avoir une vie saine dans le jardin et donc une production aussi et des jardins d'ornement, on va dire, beaux, sans traitement.
Alors une partie de cette fête de la biodiversité a été consacrée aux scolaires, aux enfants, pour qu'ils puissent découvrir par le biais d'animation cette biodiversité. On les entend en fond, c'est eux qui font du bruit. Quel travail tu vas faire avec eux ?
Ben avec eux, on fait une sensibilisation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Je crois qu'il y a 900 enfants attendus aujourd'hui. Donc des enfants de toute classe d'âge et de toute classe. Donc on est obligé un peu d'adapter nos animations. Et on fait de la sensibilisation justement au compost. Insectes qui habitent le compost, qui le transforment, et tous les insectes pollinisateurs qui peuvent après nous aider à avoir des jolis fruits, des jolies fleurs, etc., etc.
Alors quels sont ces animaux que l'on appelle les décomposeurs ?
Il y a toutes sortes, justement, c'est pas que des insectes, c'est bien de dire animaux, parce que ici on a par exemple des cloportes, des gloméries, des iules, des vers de terre, des larves de hanneton, rhinocéros, des larves de cétoine, des araignées, etc., etc. Donc des chrysalides aussi. Et on a plusieurs stades. C'est-à-dire qu'ici, on peut observer des œufs de coccinelle, par exemple, et puis sa chrysalide, la larve de coccinelle et l'adulte. Donc on essaie de présenter toute la phase d'évolution de l'insecte utile au jardin.
Alors sur cette notion de compost, de compostage, de réutiliser nos déchets organiques pour en faire des engrais naturels, est-ce que c'est des notions qui sont aujourd'hui déjà connues des enfants ou est-ce que tu apportes vraiment des choses nouvelles ?
Alors ça dépend un peu des enfants parce que les enfants, on va dire, des abords de Montpellier ont tendance quand même à avoir une certaine sensibilisation parce que beaucoup de parents ont des petits jardins maintenant, dans les jardins familiaux, les jardins partagés. Par contre, c'est vrai que les enfants de plein centre ou de ville, ils ont un peu plus de difficultés à appréhender quand même le principe. Le principe même du jardin, sans parler de compostage, parce que alors c'est encore autre chose après quoi. Mais c'est vrai que c'est une belle journée de sensibilisation aujourd'hui, et ça leur permet quand même d'avoir une belle découverte. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est qu'on travaille avec du vivant, donc les enfants peuvent voir vraiment les insectes, les toucher, et donc avoir une autre approche. Il y a une grande phobie aussi par rapport à la non-connaissance. Et là, même les enfants qui arrivent ici, qui ont un petit peu de mal à toucher au départ, bon, ils se régalent de toute façon à les observer, à les toucher, à les appréhender. Et je pense qu'ils repartent avec une autre idée de ce que peut être le jardin, le compost et tout le monde qui vit autour de ça.
Alors je te connais en tant que grand défenseur des jardins. Là, on est sur une thématique faite de la biodiversité. Est-ce que le jardin est une manière de cultiver cette biodiversité ?
Ah, totalement. Ça, c'est vrai que nous, on fait que du jardin naturel. Donc, la biodiversité, c'est vraiment c'est le point ultime, quoi. On ne peut pas passer outre ça, sinon on sera obligé d'utiliser des types de produits qu'on se refuse totalement d'aborder et d'utiliser, bien sûr. Et si on veut un jardin sain, naturel, avec des bons légumes, des belles fleurs, des bons fruits, etc., ça passe par une grande biodiversité végétale et ça passe aussi par l'aménagement de lieux d'accueil de la faune qui, elle, va réguler aussi énormément de choses. C'est-à-dire que nous, on ne traite pas des pucerons. On a des nichoirs à chrysope, on a des nichoirs à perce-oreille, à coccinelle, et la régulation se fait toute seule. Notre arme principale depuis quelques années au jardin, c'est l'appareil photo. Et on peut comme ça prendre des photos des interactions qui peuvent se créer naturellement dans le jardin, et on arrive vraiment à des résultats assez, assez dynamiques et assez intéressants.
Si je te comprends bien, finalement, ton discours, c'est de dire que la biodiversité permet de se passer de tous les produits de l'agrochimique, ou d'une partie d'entre eux, au moins.
Exactement. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des années où, au niveau climatique, etc., il y aura des infestations de pucerons, des choses comme ça. Alors peut-être que là, on pourra avoir accès ou besoin de certains produits naturels pour traiter, mais il est évident que le but ultime, c'est zéro traitement, et c'est de laisser faire la nature en lui permettant de s'exprimer. Voilà. Et il faut savoir que si on traite même avec des produits naturels, on va déséquilibrer aussi ce rapport prédateur-ravageur. Et il vaut mieux instaurer par la biodiversité végétale, entre autres, justement cet équilibre où en fait, on aura très peu d'interventions à faire par rapport à tout ce qui aurait été mis en place.
Il reste beaucoup de travail à faire, non ?
Énorme. Mais tant mieux, on est là pour ça.
Merci à toi, Philippe. Nous continuons à découvrir cette fête de la biodiversité. Je vous propose de vous arrêter sur le stand de Mosson Coulée Verte et je suis avec Madame Vignon. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous proposez sur votre stand dans le cadre de cette fête de la biodiversité ?
Eh bien, nous avons différentes choses. Nous avons un stand de pêche de poissons de la rivière Mosson. En fait, ce sont des poissons que nous avons reproduits sur du plastique et donc c'est très ludique, les enfants s'amusent à les pêcher. Et l'objectif, c'est qu'ils apprennent à reconnaître les poissons, puisqu'ils vont après au panneau et ils cherchent à reconnaître le poisson, ils lisent le nom. Et bon, l'intérêt, c'est qu'ils reconnaissent après, ils sachent qu'il y a pas mal de poissons sur cette Mosson. Il y a 22 espèces.
Parce que l'objet de votre association, c'est ça, c'est de faire partager et de faire découvrir la rivière Mosson.
Alors, c'est un des objectifs, c'est la sensibilisation à l'environnement. C'est aussi la défense de l'environnement, c'est-à-dire que nous sommes là aussi pour parler gestion de l'eau. Et donc, nous sommes très présents sur le bassin du Lez et de la Mosson. Donc, nous sommes agréés sur 29 communes au titre de l'environnement et aussi au titre de l'urbanisme sur Montpellier.
En dehors de la sensibilisation et du partage d'informations, est-ce que vous avez d'autres objectifs ?
Justement, d'améliorer la gestion parce que refaire découvrir la rivière de façon à ce qu'elle ne soit pas un égout à ciel ouvert comme elle a été autrefois. Nous avons organisé, il fut un temps, pas mal de chantiers de rivière. Et nous continuons d'ailleurs avec une action pédagogique. Tous les ans, nous sortons 1000 à 3000 enfants sur la rivière Mosson afin de leur faire voir les exactions faites par les grands, c'est-à-dire les déchets qui sont déposés. Et c'est dans le cadre d'un projet pédagogique qui se fait tout au long de l'année. Disons que c'est un peu l'opération phare. Auparavant, évidemment, ils ont été sensibilisés à la rivière, à la découverte du milieu naturel et tout. Ils ont appris à l'aimer. Et là, ils voient évidemment les exactions. Donc voilà, c'est un peu la phase ultime de sensibilisation.
Votre projet associatif est né il y a combien de temps et de quelle manière ?
Alors, en 1987, c'est Jean Valatte qui avait proposé de créer cette association. Donc, c'est un habitant du quartier Payade à l'époque. Et voilà, on est un ensemble d'habitants où nous nous retrouvons autour de cette rivière que nous aimons et que nous cherchons à protéger. Donc là aussi, sur le stand, vous pouvez admirer, il y a une exposition photo avec différents milieux. Donc le milieu de la forêt-galerie au bord de la rivière, le milieu de la garrigue et puis le milieu des étangs.
Entre la naissance de votre association et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé.
Oui, d'abord, au départ, la Mosson était vraiment un égout à ciel ouvert. Maintenant, l'entretien est réalisé par les communes régulièrement. Donc oui, il y a eu une prise en compte de cette rivière par les collectivités. Ça, c'est déjà une bonne chose. Les gens ont appris à l'apprécier. Donc beaucoup de promeneurs. On a un sentier de grande randonnée le long de la rivière. Le Lez aussi a fait l'objet d'aménagements aussi par la ville de sentiers. Donc ce sont des rivières, oui, qui ont été beaucoup mieux prises en compte. Bon, qui font aussi l'objet d'une grosse surveillance sur le plan inondation, notamment pour le Lez.
Des rivières qui ont donc aujourd'hui une meilleure image que celle qu'elles avaient dans le passé. Est-ce qu'il reste beaucoup de travail à faire ?
Il y a toujours du travail à faire parce que, bon, on parle d'entretien de rivières. Alors, l'entretien, c'est pas fait n'importe quoi. Moi, j'ai comme, toujours, je donne une image. Pourquoi enlève-t-on la poussière sur les meubles dans une maison ? Alors, parce que ça n'est pas joli, parce que pour montrer aux autres, quand on a un visiteur, bah, que c'est propre chez soi, parce qu'on est allergique, ou alors on s'en fiche et on laisse la poussière. La rivière, on ne fait pas un nettoyage systématique. Il faut qu'il y ait une bonne raison de le faire. Alors, on enlève, par exemple, les embâcles, c'est-à-dire les branchages ou les arbres morts, quand il y a un enjeu, c'est-à-dire quand des habitations risquent d'être ennoyées. Par contre, ça fait des barrages naturels. Ces barrages naturels évitent les inondations plus en aval si le barrage est maintenu en place. Donc ça dépend des barrages, donc ça s'apprécie. Et puis ces barrages permettent un ralentissement du courant. Et donc il y a plein de petites particules de végétaux qui se mettent, qui tombent. Et ça fait des caches, donc entre ces petits graviers de la rivière, il y a des caches pour les petites bêtes. Et donc ça fait de la nourriture pour les poissons.
Tout un milieu à découvrir.
Absolument.
Merci à vous et bonne continuation.
Je vous remercie. Bonne journée.
Mère la chaise dans les orties, pépère la chaise n'est pas rentré. Il est tombé dans l'escalier et sa bouteille s'est pas pétée. Pépère la chaise, madame Satan s'en va couler dans le caniveau. Pépère la chaise, madame Cajot, femme de Roger qui avait très chien. Un chien est mort, l'autre s'est pendu, y'a plus d'amour dans les foyers. Il s'en va couler dans le caniveau, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler Oscar, t'as mort, te plains tout seul comme un rat mort. T'as beau t'appeler le grand Dédé, t'as pas pu fier qu'un chat crevé. Le soleil dort petit néon, dort sous les ponts, petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler Oscar, t'as mort, te plains tout seul comme un rat mort. T'as beau t'appeler le grand Dédé, t'as pas plus fier qu'un chat crevé.
Nous retrouverons Sébastien Rank, qui est animateur au sein de l'APIEU, atelier permanent pour l'initiative à l'environnement urbain. Quelques mots sur cette association qui exerce depuis plusieurs années sur Montpellier et autour de Montpellier.
Effectivement, l'APIEU a déjà quelques années d'existence, hein, puisqu'on va fêter nos 25 ans. On est une association donc, surtout de sensibilisation à l'environnement urbain, qui comprend en fait la sensibilisation aux grandes thématiques environnementales d'aujourd'hui, à savoir la gestion des déchets, la place de la nature dans la ville, les déplacements, l'environnement sonore, le jardin. Donc vous voyez, toutes ces thématiques représentent en fait, on va dire, toutes nos activités qui peuvent se décliner en fait en différents dispositifs, soit des classes de ville, des animations auprès des scolaires, de l'animation également hors temps scolaire par le biais des clubs de ville, c'est-à-dire faire de la démarche de projet avec les jeunes des quartiers. On fait également quelques sorties grand public, essentiellement dans le cadre de l'opération Main Verte qui est pilotée par la ville. Nous sommes structure intervenante au même titre que le Passe Muraille et que l'association État des Lieux. On fait également un petit peu de formation d'adultes sur le thème de l'eau, le thème du patrimoine. On est également lieu ressource Carapate, plus connu sous le nom de Pédibus, qui est un grand dispositif régional destiné à faire en sorte que les enfants retournent à pied à l'école. Donc c'est une grosse partie, c'est un gros projet de la structure. On fait également quelques études, on a participé notamment l'année dernière à l'inventaire des friches de Montpellier sur certains quartiers, et également un petit secteur d'édition où on essaye de faire partager un petit peu nos expériences en termes de pratiques pédagogiques, en termes d'outils pédagogiques également.
Alors on se rencontre là maintenant, juste avant que vous partiez cet après-midi, en animation avec des scolaires. Qu'est-ce que vous allez leur proposer dans le cadre de cette fête de la biodiversité ?
Alors moi personnellement, je suis plutôt sur le secteur de l'animation nature et patrimoine au sein de l'APIEU. Donc cet après-midi, c'est des petits créneaux assez courts, d'une demi-heure, pendant lesquels je vais essayer de sensibiliser les élèves des classes, donc des écoles de Montpellier, à la diversité et des chants et des cris d'oiseaux. Donc pour cela, j'ai un lecteur MP3 et des enceintes dans lequel j'ai pu enregistrer donc différents chants d'oiseaux. Je vais leur proposer déjà une écoute de toutes ces espèces associées à des illustrations. C'est déjà une première chose. Et au moyen de petits instruments qu'on appelle des appos, qui souvent sont utilisés par les chasseurs. Moi, je vous rassure, je ne les utilise qu'à des fins pédagogiques. On va essayer de refaire ces chants d'oiseaux et d'associer donc leurs noms, leurs chants. Tout ceci dans un but d'éveil au sens, notamment à l'ouïe.
C'est un éveil au sens par le jeu.
Oui, c'est quelque chose auquel on est attaché, nous, à l'APIEU, l'approche sensorielle, puisque ça nous paraît essentiel de faire en sorte que les enfants, notamment, essayent de renouer un lien avec la nature, même si elle est en ville.
Le fait que l'APIEU soit présent sur cette fête de la biodiversité, c'est quelque chose d'évident pour vous ?
Pour nous, cela coule un peu de source, puisque déjà d'une part, la ville de Montpellier est un partenaire privilégié pour nous. On travaille sur pas mal de projets avec eux, avec l'aide de la DIPAN, qui est la Direction Paysage et Nature de la ville. Et puis nous, c'est notre travail quotidien, nous, salariés de l'APIEU. Donc il nous semble intéressant et j'allais dire presque primordial d'être présent.
2010 était déclaré année de la biodiversité. Est-ce qu'aujourd'hui vous partagez un peu le constat qui est généralement fait de dire la biodiversité est en danger, il faut la protéger aussi bien dans le milieu urbain ?
Je travaille à l'APIEU depuis 10 ans et depuis 10 ans c'est mon combat quotidien. Donc enfin, j'allais dire, une fête de la biodiversité qui permet justement de vulgariser un petit peu toutes les connaissances qui existent en termes d'être vivant sur la planète. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est la diversité des structures qui interviennent dans cette fête pour montrer un petit peu toute la richesse qu'il y a autour de nous et qui, comme vous le savez, est en voie de disparition.
Merci Sébastien. Cette fête de la biodiversité, donner la parole aux labos de recherche, comme on pourrait les appeler. Et donc je me suis arrêté sur le stand de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Et nous allons en parler avec Jocelyne Ferraris, qui est écologue, chercheur au sein de l'IRD. Comment est-ce que vous avez pensé, réfléchi votre stand ?
Oh, mais en fait, c'est assez simple, c'est qu'on est une unité de recherche spécialisée sur les récifs coralliens, les écosystèmes coralliens. Et donc, quand on nous a dit qu'il y avait une fête sur la biodiversité, s'il y a bien un écosystème qui est caractéristique d'une très forte biodiversité, ce sont les écosystèmes coralliens. Et donc, on était très contents de pouvoir effectivement parler de nos travaux et de cette biodiversité associée à ces écosystèmes extraordinaires.
Cette richesse des milieux aux massifs coralliens, elle se traduit de quelle manière ?
Par exemple, nous, on travaille en Nouvelle-Calédonie. Le récif corallien de la Nouvelle-Calédonie a fait l'objet d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, tellement il est exceptionnel dans le monde. C'est par exemple 1500 espèces de poissons qui ont été recensées au cours de nos travaux, avec des gens qui plongent sous l'eau pour aller compter les poissons. C'est, je ne sais plus, 800 espèces, je crois, de corail qui sont des organismes bioconstructifs destructeurs du récif corallien. Ce sont des algues, ce sont des mollusques. Enfin, il y a une richesse absolument extraordinaire associée avec le récif corallien lui-même, qui est un petit animal qui permet donc de construire ce, à travers le corail, ces massifs coralliens extraordinaires. Quoi.
Une fois le constat de cette richesse fait, est-ce qu'aujourd'hui on sait pourquoi ces milieux présentent une aussi grande richesse ?
Le pourquoi, en fait, c'est, je pense que c'est parce qu'en fait, il y a une, énormément, effectivement, de représentants de différents organismes, de différentes espèces, qui représentent une fonction particulière au sein de l'écosystème, qui vivent en symbiose, qui vivent en association, qui se complètent les uns des autres, et qui fait que dans la mesure où l'écosystème n'est pas perturbé, il y a un équilibre qui s'installe et qui permet, effectivement, cette explosion de diversité, parce qu'il y a tout se complète, c'est un tout extraordinaire. Quoi. Par contre, dès qu'il commence à y avoir une perturbation qui malheureusement est souvent reliée aux actions de l'homme, là il va y avoir un déséquilibre et une perte de cette biodiversité, donc au détriment de représentants soit des coraux, soit des poissons, parce qu'il va y avoir des fonctions qui ne sont pas représentées au sein de l'écosystème.
Est-ce que l'on peut affirmer qu'un milieu naturel qui ne serait pas soumis à des perturbations aurait une tendance à développer de plus en plus de biodiversité ?
C'est effectivement ce qui est un petit peu la théorie écologique, à savoir qu'au fur et à mesure que l'écosystème vieillit, il y a une augmentation du nombre de représentants des différentes espèces, puisqu'effectivement il y a de plus en plus de fonctions qui sont représentées au sein de l'écosystème. Mais malheureusement, des écosystèmes naturels vierges de toute action humaine, ça n'existe quasiment plus. Hein, donc on observe effectivement une dégradation de la biodiversité partout dans le monde, quoi, notamment dans les milieux marins. À cause de l'exploitation faite par les hommes des ressources qui sont offertes par l'écosystème lui-même. Quoi.
Alors parmi les perturbations, il y a l'homme, mais je suppose qu'il y a aussi tout ce que sont les facteurs naturels. Est-ce que ces facteurs-là vont permettre à un écosystème de rester à un équilibre, peut-être ? Je veux dire, si l'on multipliait dans un milieu fini un nombre indéfini d'espèces, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque de finalement de tout faire basculer vers un déclin ?
De toute façon, il y a une limite maximale. Effectivement, à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre d'espèces parce que justement, le nombre de niches écologiques, finalement, est limité. Et donc, on arrive forcément à un plateau. Et quelque part, les perturbations naturelles peuvent être aussi une bonne chose pour permettre à l'écosystème de réagir. Et donc, plus il y a d'espèces, plus l'écosystème va être résistant et va être ce qu'on appelle résilient, va être capable d'absorber des perturbations et de réagir, de changer éventuellement d'état ou de rester dans les mêmes états. Et ça, c'est grâce à cette biodiversité qu'on va avoir la capacité de résistance de l'écosystème. Mais c'est évident que de toute façon, il y a un maximum qui ne peut pas être dépassé, quoi qu'il en soit. Hein.
Alors aujourd'hui, il y a un constat qui est généralement fait de dire on est dans une phase de déclin de cette biodiversité. Est-ce que vous, c'est un constat que vous partagez ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous intégrez vos travaux de recherche plutôt dans un mouvement, entre guillemets, de résistance ou de protection, ou pas ?
Oui, bien sûr. En fait, tous nos travaux, notamment au niveau de l'Institut de recherche pour le développement, sont des recherches à caractère finalisé. Donc, c'est toujours en relation avec des questions sociétales et donc notamment en termes de problématiques de gestion. Donc, comment conserver les milieux, comment permettre le développement aussi des sociétés qui sont associées avec ces milieux coralliens. Et donc, c'est bien sûr implicite à nos recherches. Et là, c'est sûr que le constat de diminution des biodiversités, on le fait comme partout ailleurs, hein, à cause des actions de l'homme. Mais d'un autre côté, on fait le constat comme quoi il y a une méconnaissance de la biodiversité et qu'il y a plein de groupes dont on ne connaît pas le nombre d'espèces présentes parce qu'en fait, ce sont des animaux ou des végétaux qui sont petits et donc qui ne sont pas bien observés, qui ne sont pas bien recensés. Et en fait, on sous-estime sans doute la biodiversité qui doit être encore plus importante que celle qu'on pense. Et par contre, c'est vrai que ce qui est bien visible et ce qui est exploité par l'homme, il y a un constat qu'il y a une perte. Il y a une diminution du nombre de représentants de ces différentes espèces. Quoi.
Et vous, sur la base de vos travaux ou de ce que vous avez pu lire, est-ce qu'il vous semble qu'il n'est pas déjà trop tard pour réagir ?
Il n'est jamais trop tard. Je suis optimiste de nature. Par contre, il y a urgence. C'est évident, il y a vraiment urgence d'intervention. Et donc là, bon, bah, il y a notamment des aires marines protégées qui se mettent de plus en plus en place dans le milieu marin parce que malheureusement, par rapport au milieu terrestre, il y a effectivement un retard en termes de protection au niveau du milieu marin. Par contre, il y a une prise de conscience sur le plan international qui est très forte. Et donc, je pense qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises par rapport à des limitations aussi au niveau de la pêche, par rapport à des protections pour permettre aussi des activités autres que juste l'extraction des ressources, mais aussi le fait de profiter de ces ressources pour permettre des développements des sociétés qui sont associées à ces ressources. Parce que c'est bien beau de vouloir protéger aussi la biodiversité, mais l'homme fait partie de l'écosystème et lui aussi, il faut aussi préserver les activités qui sont reliées avec ces milieux-là, parce que notamment quand il y a des sociétés qui dépendent en termes économiques du maintien de ces milieux-là, parce qu'ils les exploitent, ils les utilisent et ils en vivent. Donc c'est important aussi de trouver un équilibre entre les deux aspects, quoi, développement et conservation.
Alors on vit dans un monde où on a un peu l'impression que la nature fait partie du monde de l'homme et pas l'inverse, alors que c'est nous qui faisons partie du monde de la nature. Est-ce que vous partagez justement cette vision en disant on se trompe, l'homme se trompe aujourd'hui parce qu'il a l'impression que la nature n'est qu'une partie de notre planète et que finalement c'est nous qui l'occupons en majorité, alors que c'est à mon avis a priori l'inverse?
Moi j'en suis personnellement convaincue, l'homme fait partie de la nature, l'homme est une espèce vivante au même titre que les autres espèces de nos écosystèmes naturels, et dire, si on ne respecte pas cette association, ces symbioses, ces équilibres au niveau du milieu naturel duquel on dépend, là, je veux dire, effectivement on est mal parti, et à la limite je pense que la nature va reprendre ses droits, hein. L'espèce humaine a intérêt à faire attention parce qu'elle dépend en fait de la survie de la nature. La nature n'est pas au service de l'homme. Je pense que vraiment, c'est nous qui dépendons de la nature.
Merci Jocelyne.
Je vous en prie.
Le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier tenait son stand à cette fête de la biodiversité. Je suis avec Bénédicte Martin qui s'occupe de la communication au CEFE. Et je suis devant un panneau qui s'intitule « Écologie 2010, colloque national d'écologie scientifique 2-3-4 septembre 2010 à Montpellier ». Alors vous avez profité de cette fête de la biodiversité pour annoncer cet événement. Quelques mots sur cet événement qui va arriver à la rentrée prochaine.
Tout à fait, c'est la première fois qu'aura lieu un colloque d'écologie scientifique en France. Il a lieu au Corum le 2, 3 et 4 septembre. Et il s'adresse surtout aux scientifiques et aux étudiants en biologie et en écologie. C'était la première fois que toutes les thématiques, les grands groupes thématiques de l'écologie scientifique vont se retrouver. Donc l'écologie évolutive, l'écologie chimique, l'écologie fonctionnelle, l'écologie du paysage. Enfin bon, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de projets interdisciplinaires qui vont se retrouver à ce colloque. Voilà.
Quels sont les objectifs de ce colloque ?
Donc les objectifs, c'est surtout que tous ces scientifiques qui sont dans des thématiques données se rencontrent et développent des projets interdisciplinaires. Et puis que, oui, c'était vraiment l'idée que tous ces scientifiques se rencontrent et animent le réseau d'écologie scientifique en France.
Est-ce que c'est le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive qui a l'initiative de ce colloque ou bien est-ce que c'est un groupement de laboratoires de scientifiques ?
Je dirais qu'il y a eu comme ça quelques personnes au départ, mais qui étaient donc du CNRS, du CEF et puis de l'INRA, qui ont eu envie de créer ce colloque. Et après, ils ont associé tous les scientifiques donc de l'INRA, du CIRAD, de l'IRD, du CEMAGREF, parce qu'il faut savoir qu'à Montpellier, c'est vraiment un lieu de recherche très important en agronomie, en écologie et puis dans toutes sortes de thématiques scientifiques. Et que c'était l'occasion vraiment de faire ça ici. Ça va être vraiment bien, je pense.
Pourquoi faire un colloque sur l'écologie ? Est-ce que c'est pour répondre à un manque de concertation, de communication autour de cette thématique ?
Je pense que c'est important de créer des lieux de rencontre et de visibilité de cette thématique par rapport à d'autres thématiques qui sont beaucoup plus mises en avant, comme je sais pas, la physique, l'astrophysique. Je trouvais que je crois que ce colloque, il est là pour dire l'écologie scientifique, c'est important. Ça va répondre à plein de questions de la société aujourd'hui. Il faut soutenir ça et il faut développer, il faut qu'il y ait les financements qui suivent. Voilà.
Merci. Après avoir évoqué ce colloque à venir à la rentrée de septembre, je poursuis avec Arnaud Grégoire, enseignant-chercheur et maître de conférences à l'Université Montpellier 2, mais qui travaille également au CEF. Alors sur cette table, sauf si je me trompe, mais il me semble qu'il va être question d'oiseaux.
A priori, oui, il y a du matériel assez varié, mais qui finalement a en commun l'utilisation donc pour comprendre et étudier un peu les oiseaux dans leur milieu naturel. Et donc pour ce faire, j'ai emmené un sac de terrain, tout simplement pour montrer aux enfants qu'avec un petit baluchon, on pouvait très bien avoir tout ce qu'il fallait pour observer et éventuellement faire quelques petites mesures sur les oiseaux. Donc pour leur montrer un petit peu ça, on a proposé quelques photos pour leur montrer un peu comment reconnaître les oiseaux. Et par ailleurs, les écouter. Donc là, il y a également sur cette table un lecteur CD avec une enceinte qui permet de produire les sons des oiseaux, des espèces voulues. Et donc, en l'occurrence, de leur montrer qu'outre le coucou qu'on est capable de reconnaître par le son qu'il produit, on peut également reconnaître l'essentiel des espèces d'oiseaux par le chant qu'ils produisent. Et autrement, nous, on travaille sur une espèce d'oiseau donc, qui est principalement donc, les mésanges au sens large. Et pour l'étude en question, la mésange charbonnière. Et donc j'ai amené un nichoir, parce qu'il se trouve que c'est une espèce qui utilise volontiers les cavités artificielles. Donc j'ai amené un nichoir pour leur montrer qu'on pouvait étudier la biodiversité au pas de sa porte dans son jardin.
Parler de biodiversité, ça veut dire connaître les animaux, c'est ça ?
C'est les connaître et les étudier à tous les niveaux d'organisation. Donc là, vous avez certainement entendu parler de communauté, vous avez peut-être entendu parler de génétique. Et ici, nous, on travaille un peu à l'échelle de l'individu et de la population. Donc on fait des suivis de population d'oiseaux pour comprendre un peu les mécanismes qui affectent globalement la biodiversité.
C'est quoi ? C'est dans un objectif de mieux les défendre ou de les protéger ?
Alors là, en l'occurrence, c'est une espèce qui est assez intéressante parce qu'elle est assez cosmopolite, c'est-à-dire qu'on peut la trouver un peu partout. Donc c'est choisir une espèce modèle pour comprendre comment, par exemple, l'urbanisation va affecter la démographie des espèces sauvages. Et donc, la mésange, il se trouve que c'est un bon modèle, justement, parce qu'elle a des caractéristiques communes avec un certain nombre d'autres espèces qui, elles, peuvent être en danger.
Est-ce que c'est une espèce qui est facile à observer ?
Alors, clairement, les gens, souvent, la voient l'hiver, parce qu'elle vient volontiers manger les boules de graisse ou les graines qu'on met sur notre balcon ou ce genre de choses-là. Donc, je pense que les gens sont assez familiers. D'ailleurs, j'étais assez surpris. De nombre des enfants connaissent les oiseaux et voient très bien de quoi il s'agit. Donc a priori, c'est plutôt une espèce que les gens connaissent bien.
Aujourd'hui, au stade où vous en êtes de vos recherches, qu'est-ce que vous pouvez en dire et sur quelle thématique à venir vous allez progresser ?
Donc en gros, à l'heure actuelle, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été portées sur la façon dont les populations réagissent en fonction de leur environnement. Donc il y a eu énormément de travaux, notamment dans l'équipe dirigée par Jacques Blondel, sur la façon dont l'habitat, notamment la variété de chênes, pouvait affecter un petit peu la façon dont les individus répondaient d'un point de vue démographique. Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de mettre sur pied un petit peu un projet avec la ville de Montpellier pour s'atteler à un vaste projet qui est l'urbanisation. Donc à l'heure actuelle, c'est omniprésent. L'homme façonne ses habitats partout où il passe. Et du coup, c'est de voir dans quelle mesure cette intervention de l'homme affecte la biologie des populations qui résident. Donc en l'occurrence, la biologie des populations d'oiseaux.
À travers ces travaux, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez à peu près déjà ce que vous allez trouver ? Ou bien est-ce que vous êtes ouvert à toutes sortes de surprises ?
Alors, à l'heure actuelle, on a l'impression, entre guillemets, que pour ce type d'espèce, donc, qui est assez dépendant, entre guillemets, des chenilles, notamment pour nourrir ses jeunes, l'habitat urbain offre des conditions idéales pour la survie des adultes, donc en gros, qui est plutôt un bon habitat pour vivre quand on est un oiseau adulte, et qui, par contre, pour les jeunes, passe beaucoup par cette ressource principale que sont les chenilles. Et du coup, on s'attend éventuellement à ce que ce soit un petit peu un habitat leur où les oiseaux y vivent très bien, donc viennent facilement y vivre, mais par contre ne sont pas en mesure d'élever leurs jeunes correctement. Donc là, si j'étais prêt à vous proposer un scénario dont on discutera dans quelques années, c'est de dire que la ville, bon pour l'adulte, mais malheureusement pas très bon pour la reproduction des mésanges.
Très bien, mais écoutez, on verra ce que vos travaux donnent. Merci à vous.
Merci, au revoir.
On va les prendre, on va les faire tomber, surtout parce que...
T'as vu les migales ? On va aller voir. Là, c'est une peau de serpent.
Nous arrivons au terme de cette émission L'eau à la bouche qui clôture cette saison d'émissions radiophoniques. L'eau à la bouche, une émission interassociative qui regroupe les radios diffusantes, à savoir Radio Pays des Raux, Radio Clapas et Divergence FM. Et puis de temps en temps, il y a eu également Radio Larzac. Une émission qui regroupe également des associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de la nature et de l'éducation à l'environnement. Eh bien, un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé cette saison à la production et à la réalisation de ces émissions L'eau à la bouche, que vous avez pu retrouver mensuellement sur les radios diffusantes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, si possible, pour une nouvelle série d'émissions consacrées à la nature, à l'environnement, à l'éducation à l'environnement. Merci à vous, passez un très bon été et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ciao, ciao, bon été à toutes et à tous.
N'anticipez pas sur la berge en bateau contre une pile. La belle tâchée fait des ricochets d'une main malhabile. Moi, en ce temps-là, je ne dis pas cela en bombant le torse. Les avantageux, j'étais à ce jeu de première force. De première force.